Et le pasouk continue et il dit, pasouk dit, ve la bakar, merci. Vel Habakar, Rats Avraham. Avraham a couru vers le Bakar. Bakar, c'est le gros bétail. Par opposition au Tsom, qui est le petit bétail, c'est-à-dire les moutons, quoi, les agneaux, etc. Vaikar ben Bakar, et il a pris un taureau, probablement. Yachol Gadol, peut-être qu'il a pris un taureau, un gros taureau. Non, il a pris, c'était du bakar, mais il était rare. Il était tendre. Irach, Yachol Chaser, ben, s'il est trop tendre, c'est que il lui manquait quelque chose. Talmud Lomar va tov. Il était aussi tov. Il était aussi bon. À la fois, donc, tendre et bon. Et Vaiten el Hanar, il l'a donné au jeune homme. Ce jeune homme, c'était Ishmaël. Et pourquoi est-ce qu'il le lui a donné? Bishvil de Zarzo be Mitzvot. C'était, en fait, c'est une éducation pour l'éveiller aux Mitzvot. L'éveiller ou l'encourager, lui apprendre à s'occuper, à faire vraiment des mitzvot. Donc on voit ici que tout a une importance, ça veut dire. Il faut que ça soit bon, il faut que ça soit tendre, mais il faut que ce soit quelque chose d'important, de. C'est pas de l'agneau, des petits trucs, apporter un vrai taureau, quoi, mais un taureau, en général, c'est trop dur, c'est pas tendre. Non, il a choisi, c'est un taureau qui était encore suffisamment tendre. À la limite, pourquoi est-ce que la Torah, elle entre dans le détail, c'est un peu beaucoup, quoi. Qu'est-ce que c'est? La Torah, on peut penser, OK, il a fait Arnasat Ochim, terminé, voilà le chapitre. Il a fait hospitalité. Non. Ce qui est important, c'est que ici, comme on dit, le diable est dans les détails, mais c'est vraiment dans les détails parce que c'est fondamental de considérer que quand on fait une mitzvah, tous les éléments de la mitzvah doivent être vu comme la mitzvah, quoi. Tout se joue dans chacun des détails de la mitzvah. Chacun des détails. Et en même temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'en même temps qu'il s'occupe de recevoir les étrangers, il est aussi occupé à éduquer son fils. Bon, il donne l'animal à son fils, pour que ce soit lui qui l'amène à la Shrita, ou je ne sais pas où il l'a amené. Bon, c'est-à-dire, voilà, il faut maximaliser chaque moment, quelque part. Ce n'est pas parce que je suis occupé à faire Achnasat Orchim que pendant ce temps-là, je ne m'occupe pas de mon enfant. Je m'occupe aussi de mon enfant, même au milieu, trouver dans la mitzvah d'Achnasat Orchim, il a trouvé une place pour enseigner certaines choses à son enfant. C'est bon, si vous voulez, c'est ça la Torah en réalité. La Torah, c'est justement un mode de vie dans lequel on est ultra vivant, on est complètement vivant. Être pleinement vivant, c'est jouer tous les rôles qu'on peut jouer. Vaikar chema v'chalav. Il a pris du beurre et du lait. Alors, on ne peut pas en déduire que il leur a servi de la viande et du lait en même temps. Il a servi, d'abord, il a pris du beurre, semble-t-il, et du lait, d'abord, parce qu'il leur a donné avec le pain. Ou ben, il n'y avait pas de pain, on va voir plus loin qu'il n'y avait plus de pain, parce que elle n'a pas pu servir le pain, parce que Sarah, au milieu de faire le pain, elle est devenue Nida, puisqu'à ce moment-là, elle a retrouvé sa jeunesse. Et quand elle est devenue Nida, elle est devenue Tméa. Et donc, le pain qu'elle a fait, il était tamé, donc on ne pouvait plus le servir. Donc, il a dû se débrouiller, il n'y avait plus de pain. Il n'a pas servi de pain, quoi. Oui, c'est sûr. Ici, on dit, il a pris tout ça. À la limite, si j'avais voulu le rédiger, j'aurais mis le lait, j'aurais parlé du lait d'abord et de la viande après. Dans ce sens-là, ça c'est permis. C'est pas.
Il y a un enseignement du fait que ce ne soit pas un enseignement.
On va voir d'abord, pour l'instant, on va voir ce que les Rachamim nous ont fait du Midrash. Oui. Ce n'est pas ce que moi je pense, c'est ce que le Midrash dit. Vaikar chema v'chalav, Amar Rabbi Chanina. Ameulé, c'est-à-dire, il lui a donné le meilleur. C'est-à-dire, Ameulé, le beurre de la meilleure qualité. Voilà, on s'est embarqué dans la qualité du beurre. C'est Echad Mishishim Bechalav. C'est un 60e de lait. À Benoni, le beurre de qualité moyenne, c'est Echad Me'arbaim. C'est un 40e de. Ve Akiva Echad Mi'esrim. Et celui de mauvaise qualité, c'est un 20e. Mais ne croyez pas que tout le monde est d'accord, ça fait l'objet d'une marloquette. Rabbi Yonah Amar, Ameulé Echad Mimea. Le meilleur, c'est un centième. Benoni Echad Mishishim, Ve'akiva Echad Me'esrim. Demande la Gemara, tu m'amènes du beurre, où on va mettre le beurre sur le pain. La Gemara demande, ou pat Echani, où est le pain? Ephraim Mashkaa, Talmido de Rabbi Meir, Mishum Rabbi Meir, Amar. Alors, il y a un certain Ephraim Maksha, c'est un élève de Rabbi Meir, qui rapporte au nom de Rabbi Meir que par Chanida, Venitma Issa, que Rabbi Meir a dit, Sarah est devenue Nida et la pâte pour le pain, elle est devenue impure. Donc, il ne pouvait plus servir la pâte. Rabbanan Amré, Afilou, pâte, Evilifnehem. Mais Rabbanan disent, non, non, pas du tout. Bien entendu, il leur a amené du pain aussi. Ma im dvarim shelo amar, Evilifnehem. Dvarim she'amar al achat kama vekama. Et les Rabbanan, donc le problème c'est comment se fait-il qu'on n'en parle pas du pain? Alors Ameir il dit on n'en parle pas parce qu'il n'y en avait pas. Mais les Rabbanan ils disent bien sûr qu'il y avait du pain. Tu imagines qu'il n'y avait pas de pain? Bien sûr qu'il y avait du pain. Peut-être que le pain qu'elle voulait faire, elle n'a pas pu l'utiliser, mais elle avait un pain qui avait été fait avant. Mais quel raisonnement, c'est qu'on sait que des choses qui ne sont pas mentionnées, on sait par ailleurs qu'elles ont été apportées, Mais les choses qui ont été dites, à plus forte raison qu'elles ont été apportées. On ne comprend même pas ce qu'il dit. On n'a pas parlé de pain. C'est quoi son raisonnement là? Le beurre et le lait, ça n'avait pas été annoncé par Abraham qu'il allait redonner du beurre et du lait. On dit, on va manger, mais manger, ça ne veut pas dire du beurre et du lait, manger, c'est de la viande. Et donc, bien qu'il ne l'ait pas, même les choses qui n'ont pas été annoncées, elles ont été apportées. Le pain, il leur a dit, on va manger, venez manger un peu de pain. Au début, il leur a dit. Donc, c'est sûr que puisqu'il a dit, il les a invités à manger du pain, il leur a servi du pain. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cela? D'abord, cette idée de nous présenter ici une discussion sur la qualité du sur bon là, c'est une marloquette sur la qualité du beurre. Donc on voit qu'il y a une marloquette sur les deux meilleurs, sur le bon et le deuxième. Sur le troisième, ils sont tous d'accord que c'est un vingtième. Cette histoire de combien il y en a, peut-être que c'est construit un peu sur les lettres. Dans Réma, les trois dernières lettres, c'est Méa, c'est 100. Celui qui dit que c'était 100, un centième, il y a un remès dans le mot beurre, c'est Chet Méa, Réma. Méa, même Aleph Hé, mais ça veut dire 100. Donc celui-là, il dirait des 100, et donc l'autre s'est décalé d'un cran, donc c'est 60. Bon, et c'est des chitotes comme ça. Maintenant, ce bonhomme qui s'appelle Ephraim Maksha, dans Maksha, on a tendance à entendre, c'est celui qui pose des questions. Alors, il y a effectivement une lecture qui dit que c'était un élève de Rabbi Meir qui posait des questions, comme si Rabbi Meir, peut-être qu'il avait besoin de quelqu'un qui pose toutes sortes de questions, parce que Rabbi Meir, c'était un feu d'artifice permanent. Il fallait un peu peut-être poser des questions un peu plus basses, un peu moins acrobatiques que ce que Rabbi Meir savait faire. Et puis l'histoire du pain, c'est intéressant parce que la première chose qu'Abraham a proposée, c'est venez manger un peu de pain. Alors, c'est évident. Et maintenant, il n'y a pas de pain, c'est un peu étonnant. Mais Rabbi Meir, ça ne le dérange pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé chercher quelque chose de très loin. On sait bien qu'à ce moment-là, Sarah, il lui arrive justement un changement de sa nature qui va lui permettre d'avoir un enfant, puisqu'on lui raconte. C'est pour ça qu'elle rit, parce qu'elle se rend compte que ce que les anges vont lui dire quand ils vont annoncer que l'année prochaine, elle aura un enfant. Elle en rit aussi parce que elle se rend compte que voilà, tout à coup, il lui arrive quelque chose à elle qui est une vieille femme qui, c'est pas très clair, mais ceux qui disent qu'elle n'avait même pas d'utérus, donc elle n'était pas très, elle n'avait pas tellement l'habitude d'avoir ses règles, etc. Et maintenant, tout à coup, elle devient une jeune fille. Et donc, en meilleur, il a mis bout à bout les deux, quoi, longtemps. Il dit, il n'y a pas de pain, ben, si on ne parle pas du pain, c'est qu'il n'est pas là. Mais le problème, il faut expliquer pourquoi il n'est pas là. Alors, il explique de façon claire. Mais les Rabanan, ils disent que c'est pas possible qu'il ait pas fourni Lupin. C'est pas comme... Il a annoncé Lupin, donc Abraham, il sait qu'il peut arriver. Ça dépend. Il n'y a pas de possibilité qu'il puisse pas le donner Lupin, quoi. D'ailleurs, si on veut bien regarder, ce qu'il a dit à Sarah de faire, il lui a dit Louchi vaasi ougot. Il lui a dit fais des ougot. Après, ougot, c'est plutôt des gâteaux ou des galettes de matzah. Donc, peut-être il n'avait pas du pain, il en faisait en permanence. Là, en permanence, il y avait du pain. Comme il y avait des invités, il lui a dit, on va faire quelque chose de spécial pour les invités, on va faire des gâteaux, on va faire des matzot, là, en l'occurrence, puisque c'était Pessah. Mais bon, donc du pain, peut-être Abraham, il ne lui a pas demandé de faire du pain. Et donc, c'est pas évident que, OK, on n'a peut-être pas pu servir les gâteaux qu'il voulait ou les matzot qu'il voulait, parce que là, il me dit Rabbi Meir, mais du pain, il y en avait, bien sûr. Bon, alors maintenant on sait ce qu'il a préparé. On sait qu'il n'a pas demandé à son cuistot de préparer les choses. Il s'est occupé lui-même de beaucoup de choses. Il a fait participer Sarah, Ishmaël. Et maintenant il va leur donner à manger. Alors, Vehu Omed Alehen. Littéralement, ça veut dire Abraham, il se tient au-dessus d'eux, c'est-à-dire il est derrière eux pour les servir. Il se tient debout, il se tient derrière. Alors le Midrash dit, Acha Atamar, vous omed alehem. Ici, tu dis que Abraham était au-dessus d'eux. Ils ont traduit, les surplombait. Donc, Omed, donc il est debout et il les surplombe. Mais plus haut, on avait lu quand on a dit il y avait trois hommes debout qui le surplombaient. C'est eux qui le surplombaient. C'est-à-dire, en fait, le Midrash dit Atchelo yatsai yedehem. Donc, tant qu'Abraham ne s'était pas occupé d'eux, alors c'est eux qui sont au-dessus de lui. Kivan sheyatsa idehem ou omed alehem. C'est-à-dire que ici, le Midrash dit que quand tu as des obligations à l'égard des gens, alors la mitzvah en question est au-dessus de toi, parce qu'elle s'impose à toi. Et quand tu t'es acquitté de ce que tu dois faire, alors voilà, tu as maîtrisé tu as le mérite de la mitzvah, tu as fait la mitzvah. C'est toi maintenant qui domine l'objet avec lequel tu as fait la mitzvah. En particulier, ça veut dire que pour Abraham, il les voyait comme quelque chose qui s'imposait à lui. C'est de l'hospitalité. Ce n'est pas des gens qui lui ont demandé l'hospitalité. C'est des gens qu'il est allé chercher pour leur demander de bien venir chez lui. À la limite, on a l'impression que Abraham, il se fait plaisir en allant chercher des gens et en pratiquant l'hospitalité. C'est aussi une façon de. On pourrait, si on voulait critiquer l'hospitalité, dire que c'est quand même une façon de dominer les gens. Quand ils sont chez toi, et ils deviennent tes obligés. Donc, quelque part, tu mets les gens dans une position où ils te doivent quelque chose. T'ont rien demandé, mais en fait, en pratiquant l'idolâtrie, L'hospitalité, tu les mets dans une situation, ils te doivent quelque chose. Tu leur crées des obligations. Comme on dit, je suis votre obligé. Je veux dire. Mais bon, là, on voit que Abraham, la mitzvah, en tout cas, qui est l'hospitalité, sa mitzvah, et probablement que c'est vrai de toutes les mitzvot, que où Abraham il se met dans une situation, il met au-dessus de lui les mitzvot. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut faire la mitzvah en pensant que, okay, je fais quelque chose, si on veut. Mais lui, il pensait, je suis obligé de faire quelque chose. La mitzvah est au-dessus de moi. Nous aussi, la Torah, elle est au-dessus de nous. Mais nous, elle est au-dessus parce qu'elle nous a été donnée. Chez Abraham, la Torah, elle ne lui a pas été donnée. Donc, on pourrait penser qu'il est de plein pied avec les mitzvot. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas une obligation, c'est je veux bien le faire. Non. Ici, en tout cas, on nous dit qu'Abraham, il considère que c'est une obligation. C'est lui qui il a compris de lui-même, sans personne ne lui ait jamais dit qu'il devait le faire, il comprend que c'est une obligation.
C'est un rapport avec le fait qu'on dit que c'est une mitzvah, c'est présent à toi, tu vas t'empresser de la.
Oui, mais pour nous c'est assez logique parce que nous, la Torah, elle nous a été donnée. On a accepté une fois pour toutes, donc elle est au-dessus de nous tout le temps. Donc, quand elle se présente à toi, elle est dans le cadre de ce que j'ai déjà une fois accepté au Sinaï. Mais Abraham, il n'a jamais accepté les mitzvot.
Non, je dirais que c'est une préfiguration, c'est-à-dire le fait qu'il aille vers eux pour chercher la mitzvah, enfin, il la crée en fait, la mitzvah.
Oui, il la crée et il la met au-dessus de lui. On pourrait penser, quand tu crées, le créateur, il domine la création. Là, il crée la mitzvah, mais il l'a créée, c'est-à-dire il se met dans l'obligation de. Alors, Kivan sheyatzaideim ve'hu omed aleihem, ematom utelet aleihem. Et donc ici, on nous dit que, en fait, il faisait, Abraham faisait sur eux une pression telle, ils traduisent une. Emma, c'est vrai, ils ont traduit par terreur, c'est bien ça. C'est une telle terreur que les anges, Michaël et Gabriel, en tremblaient. Là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Visiblement, le Midrash, il a l'air de dire que Ematom ou tel est Alehem, sa terreur qu'il met sur eux, ça a l'air d'être parce que où on est d'Alehem. Parce que maintenant qu'il a fait la mitzvah, c'est lui qui les domine. Et donc, on met d'Alehem comme si. Tout à coup, il est au-dessus d'eux. Pourquoi il est au-dessus d'eux? C'est marqué Michaël met la tête, Gabriel met la tête. Chacun tremble. Et semble-t-il, chacun tremble à sa manière. Parce que on aurait pu dire Michaël et Gabriel met la tête. Michaël met la tête. Rien ne me ratait. Rabbi Tanhuma, on va voir, il dit à ce sujet-là, au nom de Rabbi Elazar, Rav Avin, au nom de Rabbi Meir, il cite ici un proverbe. C'est « À la ville, devient citadin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu n'es pas un citadin, quand tu es dans une ville, ça, le fait d'être à la ville, ça t'oblige à être citadin. Tu dois te conduire comme se conduisent les citadins. C'est-à-dire, disons qu'il y a un Derech Eretz citadin, il y a une façon de se conduire, des règles de conduite. Pour les citadins, il faut te plier à ces règles, même si toi, dans ta vie de, paysan, tu n'as pas ces règles-là. Et donc là, eux, ils leur imposent des choses. Parce qu'en vérité, Matlama, ici, ils ont tous des drôles de noms. Il y a un certain Matala qui dit que Atle Karta Aler Beni Moussa, donc c'est ça Matala, c'est ce machal, on peut dire, c'est peut-être Matala comme un machal, c'est-à-dire comme un proverbe ou un dicton. Où il dit justement, quand tu es monté à la ville, alors tu dois te conduire comme un citadin. Le mala shenachila ushtia ala moshe lamarom velo achal. Exemple, Moshe Rabbeinu, quand il est monté pour les 40 jours qu'il a passé pour apprendre la Torah, ben, comme là-haut, personne ne mange, ben, il n'a pas mangé. Donc lui, il a fait à la ville. Quand tu es dans un monde où on ne mange pas, tu ne manges pas. Chez Neymar, comme Moshe Rabbeinu nous l'a dit, Voeshev Bahar, je suis resté dans la montagne, Arbaim Yom ve Arbaim Laila, 40 jours, 40 nuits, Lechem lo achalti ou maim lo shatiti. Je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu d'eau. Aval le mata, sheyesh achila ushtia, mais dans le monde d'en bas où les gens mangent et boivent, alors vehu omed alehem tachat haetz vayochelu. Il est au-dessus d'eux, ils sont mis à l'ombre sous un arbre, et ils ont mangé, bien qu'ils soient les anges, ils ont fait comme on fait ici, ils ont mangé. Alors, l'Agmara dit, mais. Tu crois vraiment qu'ils mangeaient? Ils ont fait comme s'ils mangeaient. Richon, Richon, Mistalek. C'est? Oui, bon, c'est un peu comme ça. Bon, alors, dans, le Minag HaMakom, c'est halakhique. Mais là, on a donné. Bon, heureusement qu'on n'est pas dans la position de Moshe Rabbeinu, sinon, quoi, 40 jours. Donc, il faisait comme s'il mangeait, ça veut dire la nourriture, elle disparaissait au fur et à mesure, comme s'il l'avait mangé. Donc, à la fin, il y a quelque chose. On dit, c'est pas vraiment qu'ils ont mangé. Il faut donner l'impression que tu manges. Mais bien sûr que tu vas pas manger parce que tu n'as pas besoin de manger. Mais est-ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il donnait l'impression de jeûner, mais il mangeait? Est-ce que, bon, il a mangé probablement une nourriture spirituelle qui était restée spirituelle? Si vous voulez, Il a mangé de la manne avant qu'elle prenne son aspect terrestre. La nourriture de la manne, ça vient d'en haut. Donc c'est de la nourriture céleste qui s'habille en nourriture terrestre quand elle descend. Donc peut-être Moshé Rabbeinu, il a mangé de la manne en haut. Et donc il n'a pas mangé au sens quand il dit, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas mangé d'eau, j'ai pas bu d'eau. Mais il a très bien pu, bien sûr qu'il a, a priori d'une certaine manière, un homme qui ne mange pas pendant 40 jours, 40 nuits, il n'y a plus personne, oui, après. Et donc, il a bien dû se nourrir d'une manière ou d'une autre. Il s'est nourri, probablement spirituellement, de cette nourriture dont les hommes peuvent se nourrir. Seulement, bon, quand ils sont en bas, il faut que cette nourriture spirituelle prenne un vêtement matériel pour qu'ils puissent la manger, mais elle est quand même toujours spirituelle parce que elle n'est pas définie, elle dépend de ce que tu veux. Si toi tu veux que ce que tu manges ait le goût de la fraise, ça a le goût de la fraise. Si tu veux que ça ait le goût de l'agneau, ça a le goût d'agneau, etc. Donc ça veut dire, c'est comme si c'était des cellules pluripotentes, ça veut dire qui en fait peuvent devenir comme les cellules au départ. Certaines cellules, elles peuvent, cette cellule, éventuellement, elle peut devenir une cellule du foie, elle peut aussi devenir une cellule de la peau, etc. Il y a un moment où elles ne sont pas définies encore. Après, elles se définissent.
Est-ce que la manne, à part le fait qu'elle avait le goût qu'on lui donnait, est-ce qu'il y a quelque part un endroit où on décrit la manne en matérialité ou
Oui, enfin, on dit qu'elle, ça avait l'air, on donne un peu sa couleur, la consistance un peu. Et puis, en fait, les Bnei Israël, ils ont reçu une mitzvah de prendre de la manne, de la mettre dans une, de la conserver pour toutes les générations, pour montrer dans toutes les générations ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont mangé. On a mis la manne, quoi, je sais pas, dans un endroit où elle pouvait se conserver. Et elle était, je sais pas ce qui lui est arrivé après. Est-ce qu'elle a disparu avec le Mishkan? Le Mishkan, il n'a jamais été pris par les ennemis. Le Mishkan, il a été enterré. Il a été avalé par la terre. Les Beth Amikdash, le premier et le deuxième, ont été détruits, mais le Mishkan, il n'a pas été détruit. Il a disparu, on l'a mis de côté, Hachem l'a fait mettre de côté. Il est sous terre, quelque part. Peut-être que la manne qui était déposée là-bas aussi, elle a aussi été peut-être mise de côté, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le fait de l'avoir mis de côté, bon, ça fait qu'il n'a pas été détruit, il n'a pas été fait prisonnier par les ennemis, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'à la fin des temps, il va remonter? C'est toujours un témoignage de ce qu'Hachem nous a fait d'extraordinaire. C'est quand même pas rien d'avoir mangé pendant 40 ans de la manne. Bon, alors, montrer aux gens qu'est-ce que c'était. On pouvait montrer. C'était quelque chose pour renforcer la Emouna aussi. Je sais pas, ça vaut. On ne vous raconte pas des salades, ça veut dire, voilà. Pardon?
Bâton, on avait aussi une côté mouna.
Probablement, ouais. Donc, on nous dit ici quelque chose du rapport de l'homme avec la mitzvah, d'accord, que la mitzvah est au-dessus de lui quand il l'a pas faite et il domine la mitzvah quand il l'a faite, la mitzvah. D'une part, et puis ensuite, il y a ce problème de, il leur a fait à manger, ils ont mangé. Alors, il y a deux opinions, n'est-ce pas? Il y a ceux qui disent qu'ils ont mangé. Il y a ceux qui disent que non, ils n'ont pas mangé. Ils ont fait comme s'ils mangeaient, c'est-à-dire la nourriture qui était devant eux, ils faisaient comme s'ils la portaient à leur bouche et elle disparaissait, comme elle semble disparaître quand tu la mangeais. Et bon, ils ont fait un miracle et ça disparaissait comme ça. Bon, ça c'est Abraham par rapport aux invités, aux gens qu'il a invités à venir chez lui. Maintenant, on passe à autre chose. Ah.
Pourquoi ils sont terrorisés une fois que la mitzvah est faite?
Ils sont terrorisés par lui, par quelqu'un qui fait des mitzvot, quoi. Il fait la mitzvah, des mitzvot qu'il invente, qu'il fabrique lui-même. Eux, ils sont une mitzvah. Ces anges, un ange, c'est une mitzvah d'Hachem. C'est un ordre d'Hachem. Normalement, c'est un ordre à vocation unique, c'est-à-dire. Une fois que cet ordre a été transmis, accompli, le malach lui-même, il disparaît normalement. Mais eux, là, ces anges-là, sont des anges qui semblent qu'ils ne disparaissent pas. Ce n'est pas comme les autres anges, les Michaël, Gabriel et Raphaël, sont des anges à fonction multiple, quoi, à usage multiple.
C'est pourquoi la mission de ces gens.
Alors, en vérité, ces anges-là, ils ont une mitzvah, en général par rapport à tout le clan d'Israël, c'est pour ça que c'est les anges qui accompagnent le clan d'Israël en permanence, mais qui viennent ici, qui sont, à la limite, ces anges-là. Même si ces anges existaient comme anges auprès d'Hachem, mais que ces anges-là se manifestent dans le monde, c'est quelque chose qui a été induit par Abraham Avinu. C'est parce que Abraham il est assis devant sa tente et il devient malade de ne pas avoir d'invité, qu'Hachem il a envoyé ces anges-là, il aurait pu envoyer d'autres anges, il envoie ceux-là qui sont des anges qui désormais, semble-t-il, vont accompagner le clan d'Israël. De Michaël, on dit Michaël, Sar Israël, comme si c'est le prince d'Israël. Gabriel, en fait, on dit que c'est lui qui a sauvé Abraham quand il était dans la fournaise. Et Raphaël, c'est l'ange qui vient guérir les malades. Il est venu guérir Abraham de la Mila. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que ce qui vous a certainement frappé, c'est que ils sont trois. Et dans le texte du Midrash, on ne parle que de deux qui ont peur. De Raphaël, on ne dit pas qu'il a peur. Comment ça se fait que lui, il n'a pas peur et les autres ont peur? La différence entre Raphaël et les autres, c'est que Raphaël, il a fait son job. Il devait guérir Abraham, Abraham a guéri. Il peut courir, vaquer à ses occupations, recevoir les gens comme si de rien n'était. Donc il est guéri. Donc lui, il n'a pas peur parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais eux, ils sont encore en. Ils ont encore un job à faire par rapport à Abraham. Et quand on dit qu'il a la terreur, ça veut dire est-ce que d'avoir une obligation par rapport à ce bonhomme-là, semble-t-il, c'est ça qui leur fait peur. Comme on a peur quand on est au service de quelqu'un de très important. Peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et donc, comme Abraham leur apparaît au-dessus d'eux, parce qu'il a fait la mitzvah, donc il est au-dessus d'eux, quelque part, ils ont peur parce que est-ce qu'on va être à la hauteur de ce bonhomme qui est au-dessus de nous, auquel on doit quelque chose, ils ont tous les deux une obligation de l'un d'annoncer la naissance de Sarah et l'autre de détruire Sodome. Et tout ça, ça a à voir avec Abraham. Et comme eux, ils sont avant d'avoir fait leur job, ben, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il est très grand. On peut se demander comment des anges, qui en fait sont les anges d'Hachem, comment ils ont peur d'un homme. Bon, ils ont peur de quelqu'un qui est plus grand qu'eux.
L'articulation entre le fait de faire la mitzvah, puisque avant c'est eux qui dominaient Abraham.
Mais c'est pas eux, c'est la mitzvah qui les dominait. Ils dominaient Abraham parce qu'ils représentaient la mitzvah. Et après, maintenant, c'est Abraham qui les domine, eux,
Et on...
parce qu'Abraham a fait la mitzvah. Donc, lui, il est au-dessus d'eux maintenant. Et eux, ils sont pas seulement ceux avec lesquels Abraham a fait la mitzvah, mais sont des gens qui ont une obligation par rapport à Abraham, puisqu'ils doivent jouer un rôle par rapport à lui. Ils doivent lui annoncer la naissance chez Sarah, et ils doivent annoncer la destruction de Sodome, dont on va voir plus loin que Hachem prend conseil d'Abraham sur ce sujet-là. Ou en tout cas qu'Abraham va se sentir obligé d'intervenir pour Sodome, dans le sens où...
Alors, ils ont ici.
Pardon?
Parce que
Non, non, eux,
pour
ils n'ont eu que cette mission-là. Non, mais eux, ils sont un objet. Ils n'ont pas de mission. Être objet d'eux, ce n'est pas une mission. Ils sont l'objet de la mitzvah de Hatnasat Orchim, d'Abraham. Mais leur mission, c'est de guérir, d'annoncer, de détruire.
c'est pas d'avoir pu provoquer. Enfin, a suscité le fait que Abraham remplisse la mitzvah de l'hospitalité.
Oui, mais.
S'il n'avait pas été là, il ne l'aurait pas fait.
OK, mais est-ce que le lulav avec lequel tu fais la mitzvah de Loulav, il a une mission. Il va servir à quelque chose. Tu as raison. Mais ce n'est pas une mission. Servir à la mitzvah, ce n'est pas une mission. C'est un rôle que tu dois jouer, mais tu ne choisis pas de le jouer.
Ça, c'est post Matantora. Donc là, c'est avant. Là, on a l'impression que Hachem a envoyé ces anges-là dans un premier temps pour que la mitzvah, l'hospitalité soit presque préfigurée en fait dans une première mitzvah et qui va nous servir, nous, après sur l'hospitalité. Mais que donc il y a une première mitzvah. Puis après, ils ont chacun. Une mission, mais en même temps, ils jouent à trois cette mission, la première. Tu
Parce
vois, parce
qu'ils ont trois
qu'en
missions,
fait, ils
parce que
attendent.
trois, parce que comme les anges ne font qu'une seule chose à la fois, il n'y en a pas un qui peut faire trois missions. Chacun a une mission: guérir, annoncer, détruire. C'est pour ça qu'ils sont en trois. Parce qu'il aurait pu faire Arnasat Ochim à une personne. Ça ne change rien qu'ils soient trois. Non, ce n'est pas une mission. Ils sont là et ils vont servir. Ce qui est nouveau, si tu veux, c'est que comment se fait-il que ces gens qui ont une mission, leur mission n'est rendue possible que parce qu'Abraham pratique l'hospitalité? Bon, ben ça, c'est pour ça que je veux dire qu'en vérité, dans ce rôle... Dans le fait de faire jouer à Abraham un rôle particulier, à la fois de celui qui, bon, qui entre en alliance avec Hachem par la Mila, qui entre, qui va jouer un rôle, parce qu'il va avoir un enfant qui va lui permettre de jouer le rôle, fabriquer le peuple d'Israël, quoi, finalement, et le fait que d'être responsable du monde, en fait, c'est ce qui va lui faire, qui va faire qu'il va devoir, il va sentir qu'il a l'obligation de s'impliquer dans la destruction de Sodome, a priori d'essayer d'empêcher la destruction de Sodome.
La terreur, elle arrive une fois que la mitzvah est faite. Ils auraient pu être. Puisque si leur mission, c'est de chacun. Non, si leur présence n'est due qu'à leur mission.
Parce que
L'enjeu de
jusque-là,
leur
ils n'ont pas
mission.
vu. Ils n'ont pas vu encore qu'il était tellement grand. Tandis qu'il est grand, c'est après qu'il ait fait la mitzvah.
Comme si, oui, donc comme si le fait qu'ils fassent la mitzvah leur révèle quelque chose qu'ils ne savaient pas.
Oui, ils ne savaient pas.
D'accord. Donc
Mais.
qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah pour qu'est-ce que ça fait pour des anges? Enfin, pourquoi la mitzvah réalisée est source de terreur pour les anges?
Parce que.
C'est pas le fait qu'ils avaient une mission et que tout d'un coup ils prennent conscience de leur mission.
Non, pas après, c'est pas ils prennent conscience de leur mission, mais ils prennent conscience de celui par rapport auquel ils ont une mission. Ils ont pensé qu'il est, voilà, Abraham, Hachem m'a envoyé faire, voilà. Mais là maintenant, tout à coup, la mitzvah que eux qui n'ont pas de mitzvah de ce genre-là, on peut choisir de la faire ou de pas la faire, etc. Ils s'aperçoivent que il y a une grandeur incroyable. Si vous voulez penser à quelque chose d'un peu semblable, c'est quand Abraham revient d'avoir fait la guerre pour aller délivrer Lot, et à ce moment-là, il passe à Jérusalem, en fait, et à Jérusalem, le roi, le grand prêtre de Jérusalem, c'est Shem. Et là, Hazal explique que Shem, il est tellement impressionné par Abraham que quasiment il lui voue un culte. Il installe une estrade, il met Abraham dessus et il lui apporte des corbanotes. Il lui apporte à manger. Il apporte des corbanotes. Lui, c'est un très très grand bonhomme, Shem, mais il a aucune idée qu'on puisse être impliqué. Il a été marqué par le rôle qu'il a joué, par le fait qu'il a été sauvé, etc. Mais du coup, il s'est enfermé dans une tour d'ivoire. Il savait pas qu'on pouvait être à ce point impliqué dans le monde, être tellement grand et tellement proche d'Hachem. Quelque part, il quasiment c'est divin. Et donc, là aussi, c'est comme si les anges, ils savaient qu'ils avaient une mission. Il y a un type, il faut lui annoncer qu'il va avoir un enfant, etc. Et après, tout à coup, ils se disent, mais ce type-là, il est tellement grand, là, comment? Donc, ils sont un peu impressionnés par la grandeur d'Abraham, par la mitzvah qu'il a faite.
Oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette mitzvah de l'hospitalité le met à cette hauteur par rapport aux anges? Pourquoi l'hospitalité? Qu'est-ce qu'elle a intrinsèquement cette hospitalité qui permet, enfin, qui donne plutôt à Abraham une telle hauteur par rapport à ces deux anges, en tout cas, qui apparemment sont effrayés?
La nouveauté de l'hospitalité, c'est le fait de s'occuper, de se mettre au service des autres. Là, c'est une nouveauté. Qu'Abraham, qui est quelqu'un de, comme on l'a dit, comme le va lui dire Éphron plus tard, tu es un prince d'Hachem, pour nous, etc. C'est un prince et il se met au service des gens. Son hospitalité, il ne la vit pas comme C'est pas quelque chose qui donne de façon condescendante à quelqu'un qui a, comme on pourrait donner à quelqu'un, c'est souvent difficile, tu donnes à un pauvre et il faut faire très attention qu'il ne le reçoive pas avec, qu'il n'ait pas l'impression que c'est de la condescendance de ta part de lui jeter un os à ronger, quoi, quelque part. Tu l'écrases avec. Et non, et lui, il est capable justement de, au contraire, de se sentir obligé par rapport, par rapport à l'autre, on pourrait dire à la limace, peu importe, mais voilà, le visage de l'autre, c'est un impératif, quoi, quelque part. Je me dois à l'autre.
Est-ce que vous voulez dire qu'avant Abraham, il y a eu personne d'empathique?
Il y a peut-être pas eu d'avant, en tout cas la Torah n'en parle pas. Elle parle pas de gens qui étaient capables, peut-être ils recevaient peut-être des gens, mais quelqu'un qui pense que je dois recevoir l'autre et je dois donner à l'autre sans aucune impression de supériorité par rapport à celui auquel je donne. Sentir au contraire, j'ai une obligation par rapport à lui. Ça, je crois que c'est une invention d'Abraham.
Merci. Merci.